jusqu'à 9h30, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
De musique pour l'adolescente que vous étiez peut-être au début des années 90, et j'essaie de ne pas croiser le regard d'Omblin. Take That ce matin sur Europe 1, parmi les pionniers du phénomène boys band. Take That qui a notamment révélé Robbie Williams au monde. Et bien à la fin du mois, avec quelques rides et des cheveux blancs, quand il y a encore des cheveux, et bien vous allez retrouver Take That. Un concert confiné, concert virtuel, des retrouvailles originales pour une seule performance, mais des retrouvailles au complet. Take That était déjà revenu sur le devant de la scène il y a quelques années, mais sans Robbie Williams. Cette fois, il en sera 25 ans après avoir quitté le groupe pour se lancer en solo. Ce concert, ce sera le 29 mai, et en attendant, un classique Take That ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite d'avoir Omblin qui fait les chœurs de Take That. C'était bien Back for Good quand même.
C'était excellent.
Take That.
Un CD de titres acheté en
13, 14 Oui, sûrement dans ces eaux-là. CD de titres, rien que ça, ça nous rappelle des souvenirs. Take That le 29 mai au grand complet avec Robbie Williams. Ce sera en ligne évidemment pour un concert confiné. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oh, c'est un concert unique ça.
Oui.
Qu'un concert avec Robbie Williams. Allez, d'accord.
Oui, bien sûr. Ah non, mais lui, il reste à sa carrière solo.
Bon, écoutez, il fait beau, il fera beau aujourd'hui. C'est une belle journée, comme demain, comme après-demain. D'ailleurs, la journée la plus chaude sera celle de jeudi. Donc, la semaine s'annonce franchement agréable pour ceux qui aiment le soleil. Une particularité aujourd'hui, je le dis, mais parce que c'est assez rare, il pleut en Corse. C'est la Corse qui est la plus arrosée. À Figari, Solenzara, Bastia, Lillerousse, l'Ajaccio, nous avons des pluies. Et ces pluies vont durer une bonne partie de la journée. Nous aurons des orages en fin de journée sur les Alpes et l'arrière-pays niçois, du vent près de la Méditerranée, aux 50-70 km/h, mais il n'est pas sympa ce vent, parce que c'est un vent de nord qui va un peu rafraîchir l'atmosphère. Donc les températures actuelles se situent entre 1 et 21 degrés, voyez l'amplitude, ouh, le grand écart général. J'ai 20 degrés à Caen pour cet après-midi, 24 à Lille, 25 à Dijon, 26 à Paris, 27 à Marseille, 30 degrés à Béziers, sans tenir compte du vent dans toutes ces régions, puisque là ce sont des températures sous abri, bien entendu off course.
Merci beaucoup Laurent Cabrol et bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer.
Europe 1, il est 7h.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, c'est de décider tous ensemble d'aller lever une dette commune sur les marchés.
Plan de relance de 500 milliards d'euros proposé par le tandem Emmanuel Macron-Angela Merkel pour l'Union européenne. Éclairage de Nicolas Barré dès le début de ce journal. Le retour des fidèles dans les lieux de culte. Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les églises, mosquées et autres synagogues. Mais le grand imam de Bordeaux appelle tout de même à la prudence.
Dans la prière musulmane, il y a beaucoup de promiscuité. Dans les mosquées, les rangées des gens se mettent les uns à côté des autres. Ça ne sera plus possible immédiatement.
Il y a de la dissidence dans l'air au sein du parti présidentiel. Un neuvième groupe sera créé aujourd'hui à l'Assemblée avec des macronistes déçus, issus de l'aile gauche du parti. On y reviendra avec Mickaël Darmon. Et puis comment se passe votre retour au bureau? Nous irons prendre la température à la Défense.
Là, quand il est à côté de moi, quand on a un dossier, on peut directement se parler, dire moi tiens, est-ce que tu as vu tel point? On va gagner beaucoup de temps.
À votre invité à 7h40, Mathieu.
Vous en parliez, Hélène, le couple franco-allemand à la manœuvre et de la dette en commun au sein de l'Union, c'est historique. Angela Merkel et Emmanuel Macron qui dévoilent un plan à 500 milliards d'euros. Yves Bertoncini, président du mouvement européen, à 7h40. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, maire de Lyon. 7h01, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
On l'a dit, 500 milliards d'euros. La somme est colossale, mais elle doit permettre à l'Union européenne de se relever de cette crise sans précédent. Hier, c'est le couple franco-allemand Macron-Merkel qui a proposé ce plan de relance. Écoutez Emmanuel Macron.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, c'est de décider tous ensemble d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. C'est une étape majeure.
Une étape majeure, dit Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
L'Europe va donc se doter d'un fonds de relance de 500 milliards. C'est votre éclairage éco ce matin. Il faut encore qu'il soit validé par les 27. Mais où va-t-on aller chercher une somme pareille ?
Alors, ces sommes vont être empruntées sur les marchés financiers, mais la très grande nouveauté, c'est que c'est la Commission européenne elle-même qui va emprunter l'argent au nom des 27 États membres. Alors, un, ça règle le problème des pays déjà très endettés comme la Grèce ou l'Italie qui auraient du mal à se financer tout seuls. Et deux, les sommes ne seront pas remboursées par les pays bénéficiaires, mais par les 27 collectivement en fonction de leur poids dans l'économie européenne. En clair, les États les plus forts vont aider les plus faibles, ce qui était impossible jusque-là, car les pays du Nord refusaient. Ils ne voulaient pas qu'il y ait ainsi de transfert d'argent.
Ce plan de relance doit soutenir les secteurs particulièrement touchés par la crise. Écoutez les précisions du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'était hier soir sur LCI.
Quand nous aurons besoin, par exemple, de rénover notre hôpital, nous pourrons nous appuyer sur ce soutien de la Commission européenne et sur un financement de la Commission européenne. Quand nous aurons besoin de soutenir un peu plus le tourisme ou le secteur automobile ou le secteur aéronautique, nous pourrons bénéficier de ce financement direct de la Commission européenne financé par de la dette commune.
Hôpital, tourisme, automobile, aéronautique, chaque pays pourra donc choisir à quel secteur il affecte l'argent, Nicolas.
Oui, mais alors il y aura des critères très précis, objectifs, qui vont être définis dans les semaines qui viennent pour débloquer ces sommes, en fonction par exemple du nombre de victimes de l'épidémie. Des pays comme l'Italie ou l'Espagne, très touchés, pourront bénéficier de sommes importantes, par exemple pour rénover leur hôpital. Et puis l'autre idée, c'est d'aider des filières industrielles stratégiques. Exemple Airbus. On sait que les États américains et chinois mobilisent en ce moment des sommes énormes pour aider leur industrie aéronautique, mais jusqu'ici l'Europe était à la traîne. Grâce à ce fonds, on va pouvoir éviter que cette filière ne décroche par rapport à nos concurrents. C'est vraiment ça l'enjeu. Maintenant, dans la pratique, il faut s'attendre à une certaine foire d'empoigne entre les 27 pour la répartition de cette manne de 500 milliards. Ça promet des discussions animées.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et à lire justement dans les Échos ce matin l'interview de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle estime que les États européens doivent être à la hauteur de la gravité du dommage économique. Nicolas Barré le disait, il va falloir maintenant convaincre les pays du Nord d'accepter cette dette commune et notamment l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède ou la Finlande qui font déjà la grimace.
Europe 1, il est 7h05.
Églises, mosquées, synagogues pourront bientôt accueillir davantage de fidèles. À quelques jours de l'Ascension et de la fin du Ramadan, le Conseil d'État demande au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte.
Interdiction qualifiée de disproportionnée. Le Premier ministre devra prendre des mesures moins contraignantes dans les 8 jours. Décision saluée par les responsables religieux confrontés au désarroi de leurs fidèles. Tarek Oubrou, le grand imam de la mosquée de Bordeaux, appelle tout de même à la prudence.
On est partagé entre le désir d'organiser le culte et la prudence qui s'y est à la situation. Dans la prière musulmane, il y a beaucoup de promiscuité. Dans les mosquées, les rangées des gens se mettent les uns à côté des autres. Ça ne pourra plus possible immédiatement. Il y aura des rangées avec des distances entre chaque individu d'un mètre, etc. Donc il y aura une métamorphose des prières collectives. Bien sûr, les musulmans ont un désir immense de se retrouver pour la fête de la fin du mois de Ramadan. C'est un moment très fort. Cependant, il ne faudrait pas que cette rencontre s'effectue à n'importe quel prix, le prix de la santé.
Le grand imam de la mosquée de Bordeaux, joint par Roman Oquet.
Mathieu Rouget est évêque de Nanterre. Il sera en direct avec nous à 8h30 tout à l'heure. J'en appelle aux fidèles qui nous écoutent. Que vous soyez chrétien, musulman ou juif, tout simplement, cette décision, c'est quoi? C'est un soulagement et peut-être une satisfaction, comme le disait Hélène à quelques jours de l'Ascension. Je vous attends au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte ce matin.
Le bilan des dernières 24 heures montre un net recul des décès, 131 contre 483 la veille. Et pour la première fois, le nombre de patients en réanimation passe en dessous de la barre des 2000. Les deux foyers de contamination dans des abattoirs, dans le Loiret, 54 salariés sont positifs. L'opération dépistage se termine aujourd'hui. Et dans les Côtes d'Armor, où 69 employés sont positifs, quelques 800 autres vont être testés aujourd'hui et demain. On va y revenir dans le journal de 7h30.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, les frondeurs de La République En Marche qui prennent le large. Ils annoncent ce matin la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée. Son nom, Écologie, Démocratie, Solidarité. A tout de suite.
Il est 7h08, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Un neuvième groupe à l'Assemblée nationale officiellement annoncé ce matin. Il sera composé de députés macronistes dissidents issus de l'aile gauche du parti présidentiel. Groupe qui pourrait priver, qui prive l'exécutif d'une majorité absolue dans l'hémicycle.
Oui, officiellement, Michaël Darmon, cette démarche, elle est critiquée par les instances d'En Marche. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Emmanuel Macron ne la voit pas d'un si mauvais œil.
Et la meilleure preuve, hein, c'est que La République En Marche a décidé hier soir de ne pas exclure les contestataires. Je peux vous dire que c'est une consigne de l'Élysée, du président en personne, un ordre donné au mouvement présidentiel, qui aurait préféré d'ailleurs sanctionner les députés dissidents. Pourquoi une telle mansuétude d'Emmanuel Macron, pourquoi une indulgence plutôt inédite? Eh bien, parce que cette fracture marque la fin du en même temps. Cette idée de dépassement de la droite et de la gauche, vous savez, qui est au cœur du projet présidentiel. Autrement dit, ces rebelles pourraient aussi permettre au président de lancer une coalition politique plus large avec une véritable aile gauche. À défaut, ces défroqués du macronisme deviendraient des adversaires. Avec la création de ce groupe qui va s'appeler Écologie, Démocratie et Solidarité, dont le coup d'envoi sera donné ce matin, eh bien, c'est effectivement le signal dans l'ère présidentielle qui a commencé.
Et c'est donc officiel, l'AREM perd la majorité absolue à l'Assemblée avec la création de ce neuvième groupe. Votre fait politique, Michaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Et puis sachez aussi que le gouvernement attend dans la journée l'avis du Conseil scientifique sur l'organisation du second tour des municipales. Décision pourrait être prise d'ici la fin de la semaine avec une hypothèse qui gagne du terrain, un scrutin fin juin. Tous les entrepôts français d'Amazon rouvrent aujourd'hui. Ils étaient fermés depuis le 16 avril après une décision de justice demandant de meilleures conditions sanitaires pour les salariés. Pour l'instant, seulement un tiers des 10 000 employés du groupe reviennent au travail et sur le principe du volontariat.
Le retour au travail, justement, pour certains d'entre vous, il est effectif depuis une semaine. Content de retrouver les collègues, inquiet des risques, un peu de tout ça, comme le montre ce reportage d'Élise Dangean dans le quartier de la Défense.
Passé l'appréhension de la reprise, souvent liée au transport en commun, le retour au travail s'avère être pour beaucoup un soulagement. Chacun tente de reprendre ses petites habitudes, comme Estelle et Bastien, qui ont réinstauré leur traditionnel déjeuner sur les marches de la Grande Arche. Un duo qui, selon la jeune femme, fonctionne beaucoup mieux dans les murs de l'entreprise plutôt qu'en télétravail.
Là, quand il est à côté de moi, quand on a un dossier, on peut directement se parler, dire « Tiens, est-ce que tu as vu tel point ?» On va gagner beaucoup de temps.
L'efficacité regagnée, certes, mais au prix de quelques ajustements, raconte Bastien, qui a un peu de mal à s'habituer au port du masque.
On s'en étouffe, en fait, on n'a pas l'habitude. Donc là, le porter toute la journée, c'est impossible.
Pas l'habitude non plus de travailler dans des bureaux quasiment vides, explique Marissa, assistante en gestion immobilière.
On se sent seul. C'est vrai que de rester de 8h à 17h confiné dans son bureau, sans voir personne ou très très peu de monde, ça c'était un petit peu dur.
Mais nécessaire selon plusieurs salariés qui craignent déjà le retour sur site de leurs collègues et la difficile application des gestes barrières.
Aux États-Unis, une société de biotechnologie annonce des résultats préliminaires très encourageants pour son vaccin expérimental. Pour l'instant, il porte sur 8 volontaires, mais des essais à grande échelle sont prévus en juillet. Quant à Donald Trump, il a surpris son monde en annonçant qu'il prenait de l'hydroxychloroquine à titre préventif depuis 10 jours. Il dit n'avoir aucun symptôme, mais rien à perdre.
Le mépris, Max et les ferrailleurs, Vincent, François, Paul et les autres, et bien sûr, Les choses de la vie, tous ces films illuminés par la présence de Michel Piccoli, décédé à 94 ans.
Oui, c'était l'un des plus grands acteurs français. Il nous a quittés. Écoutez comment il parlait de la mort en 2009. C'était sur Europe 1 au micro de Marc-Olivier Fogiel.
Je trouve que plus on vit tard, plus c'est le bel âge. Donc moi, je suis très content d'être déjà vieux et j'espère beaucoup continuer à être très très vieux. Voilà.
Un jour, forcément, comme tout le monde, vous ne serez plus là. Et vous aimeriez qu'on dise quoi de vous à ce moment-là, Michel?
Oh, alors ça, il n'y a qu'une chose que je sais, ce que je dirais moi. Je sais que je dirais que je suis sûrement la personne la plus triste de me voir mort.
Voilà l'humour de Michel Piccoli. Séance de rattrapage si vous ne connaissez pas ces films. Ce soir, France 2 diffuse en deuxième partie de soirée Vincent, François, Paul et les autres, avec également Yves Montand et Serge Reggiani. Et puis Les choses de la vie, ce sera sur Arte dimanche soir.
Mais qui ne connaît pas ces films? Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. Merci beaucoup. Je ne les ai pas tous vus, mais on en a beaucoup parlé hors antenne. Je sens que Hélène était ravie de pouvoir les citer, ces films de Michel Piccoli, ce matin. On va en reparler avec Jean-Philippe Ballas ce matin. Périscope, La culture à 360 degrés, c'est à 7h50. Il est 7h13. Très bon réveil.
Et sur Europe 1, toutes vos questions santé sur le hashtag Radio Ouverte et avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
25 nouveaux clusters en France, est-ce qu'il faut s'inquiéter Jimmy?
Alors soyons lucides, nous ne passerons pas d'une phase exponentielle de la maladie à une absence totale du virus. Celui-ci circule et il est plutôt rassurant d'identifier les personnes. J'aimerais rappeler aux gens que les cas peu symptomatiques jusqu'à présent, étaient remis dans la nature, non diagnostiqués car on n'avait pas de quoi faire des PCR et on faisait vaguement une enquête autour des cas, ce qui veut donc dire que le virus pouvait circuler de façon beaucoup plus intense. Désormais, on peut tester les gens, les isoler, enquêter autour pour éviter la propagation de l'épidémie, car soyons lucides, les clusters feront l'épidémie, donc si on arrive à les identifier précocement, il est possible d'éviter cette seconde vague que nous craignons tous.
Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed qui répond à vos questions de santé tous les matins après le journal de 7h. Vous retrouvez Jimmy de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Il est 7h14.
Et sur Europe 1, on retrouve Anissé Mbida, l'innovation du jour.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et de l'innovation lumineuse ce matin. Elle pourrait intéresser ceux qui passent beaucoup de temps dans des pièces aveugles. Ce sont de fausses fenêtres qui imitent la lumière naturelle à la perfection.
Oui, ça ressemble à une vraie fenêtre, hein, alu, bois, dans le style et la taille qu'on veut. On l'accroche au mur comme un tableau, par exemple dans un sous-sol, une salle de bain sans fenêtre ou dans un cagibi. Et grâce à un éclairage spécial, elle va donner l'impression qu'il y a vraiment une ouverture avec la lumière du jour. C'est une technologie développée par la start-up coréenne Sunny Five et c'est très sophistiqué puisque l'angle de la lumière va suivre la course du soleil. Donc on verra les ombres se déplacer au sol. Elle va même stimuler l'aurore ou l'aube, le tout parfaitement synchronisé avec ce qui se passe vraiment dehors.
Oui, bon, si on regarde à travers la fenêtre, on ne verra rien.
Et non, puisque ils trichent, hein, c'est des carreaux en verre dépolis qu'ils ont mis à la place. Mais on travaille déjà sur l'étape d'après, ça sera de remplacer ces carreaux par un écran et afficher ce qu'on voit filmé par des caméras, ce qu'on voit dehors filmé par des caméras. Donc vous imaginez, hein, si vous en avez installé une dans votre garage pendant le confinement.
Il suffit de bien placer une caméra de surveillance à l'extérieur et une télé.
Et ben non, c'est un peu plus sophistiqué que ça parce que l'image va s'adapter en permanence à votre point de vue pour vous donner vraiment l'impression que vous regardez à travers une fenêtre. Et ça, c'est une technologie française de la start-up Wintual. Et maintenant, ce qui serait formidable, bah, c'est de mélanger les deux, hein, c'est-à-dire reproduire à la fois la lumière naturelle et la vue sur l'extérieur. Alors, ça ne remplacera pas une baie vitrée, mais j'en connais beaucoup avec des pièces aveugles qui sont contenterées, qui seraient bien contents d'avoir ça.
On ne peut pas l'ouvrir pour aérer la pièce, par contre.
On est non, dans un sous-sol. Ça marche pour la lumière, dans un studio fermé.
Je suis rabat-joie. Mais en même temps, je suis tellement content de retrouver Anissé Mbida. C'était difficile de vous taquiner à distance. Ça, on se retrouve en réalité dans le studio d'Europe 1, en chair et en os. Merci Anissé Mbida. L'innovation, c'est tous les matins, juste après le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1. L'édito sport à suivre. Elle a vu le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. À tout de suite avec Virginie Fulpin.
Le monde bouge avec Axel de Tarlé. Avant cela, à tout de suite.
7h19, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et Axel de Tarlé qui est avec nous, le monde bouge. Et Axel le raconte tous les matins. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Incroyable. Zoom, le service de visioconférence que vous avez peut-être essayé pendant cette période de confinement, n'est-ce pas ? Zoom vaut désormais plus cher en bourse que les 7 plus grosses compagnies aériennes réunies. Axel, ça veut dire que pour les boursiers, la visioconférence a plus d'avenir que l'aérien ?
Exactement. Zoom vaut aujourd'hui en bourse 48 milliards de dollars. C'est plus, écoutez bien, qu'American Airlines, Delta, British Airways, Lufthansa, Air France, Southwest et United réunis. Alors Zoom, peut-être faut-il quand même rappeler ce que c'est, parce que cette entreprise était totalement inconnue avant le Covid et maintenant, c'est même devenu une expression, hein. On se fait un Zoom. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire on se fait une réunion à plusieurs par Internet, en visioconférence, alors que ce soit pour le travail ou bien avec des amis, la famille, pour fêter un anniversaire à distance ou prendre un apéro. Alors pour l'instant, soyons honnêtes, ça fonctionne, mais on se marche un peu sur les pieds, hein, et puis la connexion n'est pas toujours très bonne. Sauf qu'effectivement, ça n'est qu'un début, hein. La technologie va s'améliorer. Vous savez qu'avec la 5G, ce sera possible de faire des communications par hologramme, c'est-à-dire que votre grand-mère sera assise à côté de vous sur le canapé.
Et puis, dans bien le sûr, respect des gestes barrières.
Ah bah non, là, c'est, bah, ça passe par Internet.
Ce sera un geste barrière en soi.
Ah, voilà, exactement.
La grand-mère en hologramme.
Et puis alors, bien sûr, vous avez des entreprises qui poussent ces visioconférences, ces Zooms, pour des raisons écologiques et économiques. Vous savez qu'avec le confinement, Zoom a vu son nombre d'utilisateurs quotidiens multiplié dans le monde par 30. Ah oui. On compte aujourd'hui plus de 300 millions de Zoomers. Si on
s'appelle Zoomer, voilà. Maintenant. On est un Zoomer ou on ne l'est pas. Sauf qu'Axel, j'imagine que d'un autre côté, vous parliez des compagnies aériennes, mais d'un autre côté, les Google, Facebook et compagnie, ils ne vont pas longtemps laisser Zoom seul sur ce marché de la visioconférence.
Et vous imaginez bien, Google a déjà immédiatement réagi en rendant gratuit son propre service de visioconférence qui s'appelle Google Meet, service qu'il pousse maintenant à fond auprès de son milliard d'abonnés Gmail. Donc oui, Google devrait vite étouffer le petit Zoom, ou sinon le petit Zoom se fera racheter. Ça devient d'ailleurs franchement problématique du point de vue de la concurrence, car vraiment, on a l'impression maintenant que l'économie est devenue un jeu où quoi qu'il se passe, à la fin, c'est Google qui gagne.
Cela dit, il n'y a pas que Zoom comme service de visioconférence. On a pu tester plusieurs...
Il y en a, oui, mais Zoom est vraiment émergé. Je vous dis, c'est devenu une expression.
C'était une révélation.
On stabilo bosse et on se fait un Zoom.
Le télétravail va beaucoup jouer aussi sur ces visioconférences. On n'est plus juste sur un téléphone en haut-parleur. On peut se voir, échanger et avoir les expressions du visage. Tout le monde l'a éprouvé pendant le confinement. Et on l'avait raconté dès jeudi dernier, si ma mémoire est bonne, sur Europe 1. On peut licencier par Zoom aussi.
Ah,
vous avez
Uber.
Vu ça chez Uber. Un quart des effectifs licenciés sur une communication Zoom. Ça fait un peu froid dans le dos. Là, après le télétravail, le télélicenciement.
La dématérialisation a des limites.
Oui. Merci Axel de Tarlet, le monde bouge. Et vous le racontez tous les matins. Cela dit, c'est notable. Hein. Zoom vaut plus que les 7 plus grosses compagnies aériennes réunies. 7h22.
Europe 1 et l'édito sport de Virginie Fulpin.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
L'édito sport, ça y est, vous avez vu tout le documentaire The Last Dance. Et vous n'êtes pas la seule. Les deux derniers épisodes de la série sur Michael Jordan et les Chicago Bulls dans les années 90 sont sortis hier sur Netflix. Un succès planétaire, gigantesque. Pour vous, Virginie, c'est un documentaire que doivent voir même ceux qui n'aiment pas plus que ça le basket, tant cela va au-delà du sport.
Oui, Michael Jordan a quand même l'art d'être the right man at the right place. On le savait déjà, mais là, ça se confirme dans les grandes largeurs. C'est au moment où la planète entière était bloquée chacun chez soi qu'est sorti ce documentaire sur les Chicago Bulls des années 90. Ils sont forts chez Netflix, on ne pouvait pas faire mieux. Je suis sûre que dans quelques années, quand on repensera à cette pandémie, on se souviendra aussi d'avoir été des millions à attendre impatiemment le lundi matin 9h01 pour avoir notre dose hebdomadaire de deux épisodes de NBA vintage et mythique. Oui, les fans de basket s'y retrouvent. Évidemment, voir à l'œuvre la meilleure équipe de l'histoire et se plonger dans ses coulisses, c'est passionnant pour les dingues de sport. Mais pas seulement. Et ça n'est pas non plus juste une ode à la gloire de Michael Jordan, parce que ça, on en a déjà vu quelques-unes. Bien sûr qu'on le voit survoler les paniers et qu'aujourd'hui encore ça coupe le souffle. Bien sûr qu'on redécouvre son mental hors norme, sa soif de vaincre et son talent inégalé. Mais on le voit aussi se comporter comme un tyran pas forcément éclairé dans les vestiaires, en traitant ses coéquipiers comme des sous-fifres qui n'atteindront jamais sa grandeur. Et ça, c'est intéressant de voir le plus grand champion de l'histoire aussi comme un homme pas toujours fréquentable, accro au jeu d'argent et rancunier au possible. Un homme, quoi. Et une histoire américaine au-delà du sport.
Oui, Virginie, une histoire américaine qui touche tous les domaines.
Bah déjà, le sport et l'économie ne sont jamais très éloignés aux États-Unis. Et là, on a le maître en la matière. On découvre comment Nike a réussi le jackpot du siècle en devenant le sponsor de Michael Jordan au tout début de sa carrière. Et puis derrière, le joueur, avec son charisme planétaire, a réussi à transformer la mode. Avant lui, on rentrait pas en boîte de nuit en basket. Après lui, c'est l'accessoire indispensable. Oui, oui, il a deux ou trois cordes à son arc. Il aurait pu en faire davantage d'ailleurs, contre le racisme aux États-Unis par exemple. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Barack Obama. Excusez du peu, mais quand l'ancien président américain prend la parole dans un documentaire sur un champion, c'est qu'on dépasse un peu le sport. Michael Jordan, c'est un phénomène de société, et cette série, elle en dit aussi long sur lui que sur nous. C'est ça aussi une icône. Vous voyez, pas la peine d'être incollable sur la NBA pour accepter une dernière danse.
Merci Virginie Fulpin, regardez-le. Sincèrement, comme le disait Virginie, pas besoin d'être fan de basket. Sans être fan de basket moi-même, j'ai adoré The Last Dance. C'est absolument formidable. Et alors j'apprenais dans l'hystérie collective autour de cette série qui vous donne peut-être un petit peu envie de faire du shopping qu'après la diffusion de cette série, une paire de baskets de Michael Jordan s'est vendue à plus d'un demi-million de dollars. C'était dans le meilleur et le pire des réseaux sociaux à 6h25, votre nouvelle rubrique avec Paul Lassen sur Europe 1. Barack Obama, Bill Clinton aussi, hein, est dans cette série de documentaires. Regardez-la, ça vaut vraiment le coup. C'était l'édito sport de Virginie Fulpin. Tous les matins sur Europe 1, vous écoutez, vous partagez sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 7h25.
Europe 1. Dans un instant, le journal avec Jérôme Lacroix, la météo avec Laurent Cabrol.
Et puis on va se poser cette question. Pourquoi est-ce historique que cette décision annoncée par Angela Merkel et Emmanuel Macron hier, l'Europe va s'endetter collectivement. Nous allons nous endetter en tant qu'Union européenne et non plus en tant que différents États. C'est un changement radical dans la façon de voir des Allemands. Angela Merkel va devoir faire accepter ça à sa population. Et puis, il va falloir convaincre les pays du nord de l'Europe. Ces questions-là, on en parle avec mon invité Yves Bertoncini, président du Mouvement européen. Ce sera à 7h40 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1 à 7h27, on va retrouver Laurent Cabrol. C'est l'heure de la météo, bien sûr.
Ouais.
Vous êtes là, Laurent? Soleil. Oui, tout va bien.
Il y a du soleil, bip bip, tam 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 tam, il y a du soleil. Il y a du soleil sur la France, vous le savez, chers amis, puisque vous l'avez déjà constaté, si vos volets sont ouverts, ou même si la lumière filtre à travers les persiennes. Vous savez que la journée s'annonce ensoleillée comme hier, avec des températures, ma foi, de 20 à 27 degrés, s'il vous plaît. 26 à Paris, 25 à Toulouse, 24 à Lille, 20 degrés à Caen. Mais ce sont des températures sous abri, donc ce sont des températures qui sont un petit peu plus fraîches lorsque le vent de nord soufflera, car c'est le vent de nord qui est là. Et ce vent tout soufflera en Méditerranée autour de 50 à 70 km/h. Particularité de la journée pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je le rappelle, c'est qu'il pleut en Corse. Eh oui, ça arrive. Figaro, Solenzara, Bastia, Lille-Rousse, Ajaccio, de la pluie depuis ce matin et elle va durer une bonne partie de la journée. Il fait froid à Charleville-Mézières avec 1 degré, 18 à Nice pour les températures du matin, les plus élevées 18 à Nice et la plus fraîche, vous l'avez compris, 1 degré à Charleville. Donc du beau temps, je n'en dirai pas plus. Quelques orages sur les Alpes et sur le Pays niçois. Et puis vous dire que dans la semaine, ce sera beau. Très beau, encore jusqu'à samedi. Samedi sera la mauvaise journée, mais en principe, et même certainement, à partir de dimanche, le soleil revient. Allez, je vous laisse.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, 7h29. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, vous êtes sur Europe 1.
Il faut vite isoler les cas positifs, non symptomatiques. Surtout qu'il y a le déconfinement, donc les gens vont peut-être se retrouver en famille, entre amis, et favoriser encore la diffusion du virus.
Des centaines de salariés de l'abattoir breton Kermenet testés à partir de ce matin. Foyer épidémique qu'il faut absolument éteindre, c'est l'obsession des autorités. Attention à certains gels hydroalcooliques inefficaces. La répression des fraudes rappelle des flacons de la marque Cimex. Officiel, La République En Marche perd la majorité absolue à l'Assemblée. Les frondeurs ont créé un 9e groupe dans l'hémicycle. Et puis, un comprimé par jour depuis 10 jours. Confession surprise, Donald Trump prend de l'hydroxychloroquine à titre préventif. Votre invité dans moins de 10 minutes, Mathieu.
Yves Bertoncini, président du Mouvement européen de la dette commune O27. Les pays du Nord vont-ils soutenir les pays du Sud? On en parle juste après ce journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Près de 3000 salariés dans des espaces de travail parfois exigus et des gestes barrières difficiles à appliquer. Il y a urgence à briser la chaîne de contamination de l'abattoir breton Kermenet près de Saint-Brieuc. 69 cas détectés lors de premiers dépistages. Lancement ce matin d'une seconde phase massive.
L'obsession des autorités, c'est d'endiguer la propagation. Charles Guyard, parce qu'on parle là de centaines de salariés qui viennent tous les jours des quatre coins du département.
Le risque, il est là.
Avec 2500 salariés en provenance d'une cinquantaine de communes, le risque, justement, c'est l'apparition d'autant de clusters dans les environs. Pour l'éviter, il faut tester, ce que va faire Claudine Lecorgne ce mardi dès 8h. Cette médecin généraliste de Collinet, à moins d'un kilomètre des abattoirs de Kermenet, fait partie du dispositif mis en place pour la nouvelle campagne massive de dépistage réalisée auprès de 800 employés travaillant dans le département porcin du site.
Il faut vite isoler les cas positifs, non symptomatiques, surtout qu'il y a le déconfinement, donc les gens vont peut-être se retrouver en famille, entre amis, et favoriser encore la diffusion du virus.
Pour stopper cette épidémie, les cas positifs seront donc invités à s'isoler 14 jours au moins. Un nouveau confinement qui, pour le maire délégué de Collinet, Gérard Daboudé, n'est pas du ressort des communes.
Nous, à notre niveau, non. C'est l'ARS qui pilote et la préfecture. J'ai pas eu d'appel particulier me demandant ce qu'on devait faire. D'ailleurs, les écoles sont ouvertes. Les gens resteraient chez eux si jamais ils avaient une très grande frayeur.
Le seul hôtel de Collinet n'a de ce fait pas été réquisitionné ou même mis en alerte pour accueillir d'éventuels malades. malades à isoler. Collinet, Charles Guyard, Europe 1.
Des tests également à Fleury-les-Aubrais près d'Orléans. 54 salariés positifs désormais, 20 cas supplémentaires et la campagne de dépistage qui n'est pas terminée.
Le front de l'épidémie, 1998 personnes en réanimation sous la barre des 2000. Première fois depuis le 22 mars, 28 239 décès, 131 de plus ces dernières 24 heures. Et plus de 61 000 guéris.
Avec votre masque, c'est sans doute votre plus fidèle compagnon ces dernières semaines, le flacon de gel hydroalcoolique. Eh bien, regardez la marque. Certains pourraient être inefficaces contre le virus. La répression des fraudes rappelle les flacons hand sanitizer commercialisés par Cimex, vendus en pharmacie et sur Internet.
Ils contiennent trop peu d'alcool pour vous protéger correctement. Explication de Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la répression des fraudes.
En fait, le problème, c'est l'illusion de la sécurité. C'est-à-dire que vous pensez avoir un produit qui vous protège. Là, en l'espèce, on était sur un produit qui avait une teneur en alcool qui était vraiment trop faible et donc qui n'allait pas avoir une activité virucide suffisante. Donc c'est pour ça que c'est un produit dangereux. Alors là, c'est seulement le deuxième rappel au niveau national qu'on opère depuis le début du mois de mars. La grande majorité des produits qu'on a pu observer dans nos contrôles étaient des produits qui étaient conformes. Après, pour les consommateurs, il faut bien s'assurer qu'on a un gel biocide, c'est-à-dire un gel qui est fait pour éliminer les virus. Si vous êtes face à un produit qui est seulement un produit nettoyant, vous n'aurez pas une efficacité suffisante. Il ne faut pas hésiter par ailleurs à demander à votre commerçant si le gel est bien un gel biocide et qui va vous protéger des virus.
Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la DGCCRF, joint pour Europe 1 par Romain Nocquet. C'est officiel, La République En Marche perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est déposé Écologie, Démocratie, Solidarité est né. 9e groupe de l'hémicycle, 17 députés, ex-En Marche ou En Marche frondeur, issus de l'aile gauche, ils se veulent indépendants.
Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de lever d'ici 8 jours l'interdiction absolue des réunions dans les lieux de culte, jugée disproportionnée, alors qu'ailleurs dans l'espace public, les rassemblements sont tolérés jusqu'à 10 personnes. Cette réouverture, ce déconfinement des lieux de culte, on en parle avec vous, croyants, chrétiens, juifs, musulmans. Appelez-nous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Nous serons avec l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, à 8h30, tout à l'heure.
Réouverture des 6 entrepôts français d'Amazon, aujourd'hui fermés depuis près de 5 semaines pour raisons sanitaires suite à une décision de justice. Plan de reprise validé par les syndicats. Clément Le Saffre, et retour des salariés étalé sur 2 semaines.
Pour la première fois depuis un mois, les portes des 6 centres de distribution français d'Amazon ont rouvert ce matin, une reprise en 3 vagues. À partir d'aujourd'hui, seul un tiers des quelques 10 000 employés du groupe reviennent au travail, un retour basé uniquement sur le volontariat. Puis la semaine prochaine, direction et syndicats ont fixé comme objectif entre 50 et 80% des effectifs, puis 100% à partir du 3 juin. Si ces seuils ne sont pas atteints grâce au volontariat, la direction se réserve tout de même le droit de réquisitionner des CDI. Les syndicats, eux, sont satisfaits des mesures mises en place, mais reste vigilant sur les conditions de travail. Harold Propin, délégué CGT d'Amazon.
Voilà, c'est sur du volontariat, donc c'est pour ça qu'on accepte cette reprise. Après, la prévention des risques, ça ne se limite pas à mettre du scotch ou des gants, des masques et du gel. Toutes les mesures qui ont été mises en place impliquent une modification des conditions de travail des salariés. Donc ça a un impact sur leur mental, leur psychique, et ça n'a pas été suffisamment pris en compte par la direction.
Et pour accélérer la reprise, Amazon a décidé de maintenir pour les salariés volontaires la prime de 2 euros de l'heure mise en place au début de la crise sanitaire dans ses entrepôts.
Et réaction ce matin du patron d'Amazon France. Il sera en direct l'invité du journal de 8h, Frédéric Duval, c'est sur Europe 1.
Les journalistes à la Maison-Blanche en ont écarquillé les yeux hier soir. Donald Trump prend de l'hydroxychloroquine. Il n'est pas malade, c'est à titre préventif, annonce surprise hier soir du président américain.
On dit beaucoup de bien de l'hydroxychloroquine. Vous seriez surpris du nombre de gens qui en prennent, en particulier les soignants en première ligne. Beaucoup en prennent. Il se trouve que moi aussi j'en prends. Ça fait une semaine et demie. Je prends une pilule chaque jour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusque-là, je semble aller bien. J'entends beaucoup de choses extraordinairement positives et je me suis dit, hey, vous connaissez l'expression. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Ça ne va pas me faire de mal. C'est utilisé depuis 40 ans pour la malaria, pour d'autres choses. J'en prends.
Des propos recueillis par Xavier Yvon. Donald Trump qui par ailleurs menace ce matin de cesser définitivement la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé qu'il accuse de mauvaise gestion de la crise. L'Amérique, premier bailleur de l'OMS, 400 millions de dollars chaque année. Et puis la confession d'une vie de dopage. L'ancien cycliste américain Lance Armstrong, déchu notamment de ses 7 victoires sur le Tour de France, se dopait dès 1992, soit sa première saison professionnelle. Il avait 21 ans. Cortisol Bison d'abord, puis assez vite EPO, un carburant de fusée, dit-il. Confession du Texan à la chaîne ESPN, deux entretiens diffusés aux États-Unis les 24 et 31 mai.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30 à 8h. On va retrouver François Geffrier sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gérard Collomb, le maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur. Le maire de Lyon face au déconfinement, face aux incivilités aussi. On va aussi parler de ces frondeurs de La République En Marche qui ont créé un nouveau groupe. C'est officiel depuis ce matin, Jérôme vous le disait. Tout de suite, Yves Bertoncini, président du mouvement européen. On va parler de cette avancée européenne, avancée, vous allez nous le dire, de la dette en commun. A tout de suite.
À 7h39, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 avec votre invité Mathieu Béliard ce matin, Yves Bertoncini, président du mouvement européen.
Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous connaissez bien ces questions, vous avez dirigé l'Institut Jacques Delors. La Commission européenne va emprunter 500 milliards d'euros au nom de toute l'Europe. De la dette commune pour la première fois, de l'argent transféré ensuite aux États, à des secteurs économiques qui en ont besoin. C'est une annonce politique forte. Yves Bertoncini, est-ce que c'est aussi révolutionnaire qu'on le dit ?
C'est une annonce politique très forte, notamment dans un cadre franco-allemand, puisque c'était pas gagné d'avance. Et c'est une innovation, une avancée très importante, à défaut d'être totalement révolutionnaire. C'est quand même important, c'est novateur d'emprunter pour transférer de l'argent. Mais c'est vrai que l'Union européenne transfère déjà de l'argent via son budget communautaire. Hein, l'Allemagne, la France d'ailleurs aussi, depuis des décennies, transfère de l'argent vers les pays les plus pauvres. Et puis de l'autre côté, c'est à des niveaux moindres, l'Europe a déjà emprunté de l'argent. La Commission européenne a déjà emprunté, par exemple, pour faire face à la crise économique et financière de la zone euro. Mais cela dit, cette fois-ci, on a les deux. On a la jonction, la combinaison du fait qu'on lève de l'argent, de la dette commune à des niveaux élevés, hein, 500 milliards sur 3 ans, donc environ 160 milliards par an. Et puis que, au lieu de prêter seulement cette dette, on emprunte pour prêter, eh bien là, non, on va emprunter pour transférer de l'argent, même si évidemment il faudra la rembourser cette dette après coup.
Oui, enfin c'est les pays bénéficiaires de ce plan n'auront pas à rembourser les aides, dit Emmanuel Macron.
En réalité, quand on emprunte, on rembourse. Simplement, les 27 empruntent via leur budget commun, donc bien sûr qu'il y aura à un moment un remboursement, mais qui viendra plus tard, ça c'est aussi très positif. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer ces aides dans les régions et les pays les plus en difficulté, les secteurs aussi les plus touchés, le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, sans regarder qui touche quoi. C'est-à-dire que si l'Italie, parce que c'est l'un des bénéficiaires principaux, a davantage besoin de recevoir l'argent collecté par cette dette, eh bien, il en recevra beaucoup plus que sa part normale, je dirais. Hein. L'Italie, c'est environ 13% du PIB de l'Union européenne. Eh bien, si l'Italie reçoit 25% de ces sommes, ça sera un transfert financier massif, oui. même s'il faudra bien rembourser la dette à un moment donné, et l'Italie y contribuera.
Et attendez, c'est important ce que vous donnez comme détail sur ces quelques chiffres. On parle de transfert financier. On dit, c'est Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou dans 10 minutes, qui nous expliquera qu'Angela Merkel accepte ce que l'Allemagne a toujours refusé. Est-ce qu'Yves Bertoncini, on est véritablement devant de la solidarité européenne ? Est-ce que vraiment les pays du Nord sont en train de soutenir les pays du Sud ?
Oui, absolument, mais attention, il faut s'entendre. L'Allemagne n'a jamais refusé la solidarité budgétaire. L'Allemagne, depuis l'origine de la construction européenne, transfère via le budget communautaire des dizaines de milliards d'euros. Chaque année, l'Allemagne transfère des dizaines de milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elle y gagne au marché commun, c'est aussi son intérêt. Hein, elle gagne à l'euro. Et donc, elle a toujours accepté de financer la politique agricole commune ou des fonds qui vont dans les régions de Grèce ou d'Espagne qui sont en difficulté. Simplement, ce que l'Allemagne a toujours refusé, c'est de s'endetter en commun à des niveaux aussi élevés, parce qu'elle a peur de mettre le doigt dans un engrenage, de signer un chèque en blanc à des États qui sont moins bien gérés qu'elle, notamment au sud de l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Allemagne accepte Angela Merkel de faire un pas en avant qui est significatif pour consolider, j'allais dire, le fonctionnement de la zone euro et puis contribuer à la relance de l'économie européenne, dont évidemment l'Allemagne tirera parti, elle aussi.
Mais attention, l'Allemagne n'est pas toute seule non plus sur cette ligne-là, hein. Ligne historique des pays du Nord, on va dire, pour caricaturer. La Commission européenne doit donner les détails la semaine prochaine. Ce texte-là, ensuite, il sera débattu et on sait que tout n'est pas encore acquis pour mettre les 27 d'accord. Ça va être une autre paire de manches, Yves Bertoncini.
Et oui, en effet, parce que dans l'Union européenne à 27, il y a d'autres pays hein, qui d'ailleurs acceptent de payer depuis des années. Donc nous, la France, ça nous a jamais posé de problème de transférer de l'argent vers les autres. On a une conception assez instinctive de la solidarité européenne. Mais si vous regardez les Pays-Bas, qui aussi transfèrent de l'argent chaque année, plus que nous hein, d'ailleurs, à proportion de leur richesse, si vous regardez des pays comme l'Autriche, des pays comme la Suède, le Danemark, voilà. Là, évidemment, il y a une réticence qui est assez forte. Et c'est pour ça que c'est important que l'Allemagne et la France se soient mis d'accord au préalable pour afficher, hein, l'Allemagne est un pays du Nord, que c'est nécessaire, que c'est utile. Mais il va falloir maintenant, et sur la base d'une proposition qui sera celle de la Commission européenne, hein, qui incarne l'intérêt général des 27, eh bien, négocier. Et pour des décisions de cette nature-là, il faut une unanimité hein, pour s'occuper, pour traiter le budget européen. On le voit bien, hein, souvent ça suscite des controverses, des psychodrames, des blocages. Hein, récemment, c'était bloqué. Eh bien, il va falloir convaincre tous ces pays-là et obtenir un vote de leurs parlements nationaux. Ça ne sera pas une mince affaire. On l'a déjà vu, d'ailleurs, au moment de la crise de la zone euro, hein, quand il avait fallu aider des pays comme la Grèce ou l'Irlande. Il y avait eu des difficultés dans certains parlements, mais à la fin, c'était quand même passé parce que c'était l'intérêt commun de l'ensemble des pays, des 27 et des 19 pays de la zone euro, que cette solidarité intéressée, au fond, se mette en place.
Merci Yves Bertoncini. Merci beaucoup de nous avoir éclairé les auditeurs d'Europe 1 ce matin, président du mouvement européen, les acteurs de l'actualité en direct tous les matins. Vous le savez, ce plan, on va le détailler et puis on va suivre l'évolution des discussions entre les 27 après le texte qui sera présenté par la Commission la semaine prochaine. Yves Bertoncini, merci beaucoup. Il est 7h45.
Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, hommage à Michel Piccoli avec Jean-Philippe Ballas.
Et on va reparler de ce mouvement hein, européen, justement, de solidarité avec Nicolas Bétou. L'opinion de Nicolas Bétou dans quelques minutes. À tout de suite.
7h48, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure de Périscope, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, bien sûr, la disparition de Michel Piccoli avec une chanson qu'on entend beaucoup depuis hier.
Nous sommes septembre et
la chanson d'Hélène, Romy Schneider et Michel Piccoli, Les choses de la vie de Claude Sautet et son compositeur Philippe Sard, vous l'avez appelé Jean-Philippe.
Et rendez-vous compte, il n'a que 19 ans à l'époque, Philippe Sard. C'est sa toute première musique de film et le début d'une longue histoire avec Claude Sautet, Romy Schneider et Michel Piccoli. Sur les images en noir et blanc, on voit les deux comédiens en studio, casque sur les oreilles. Ils enregistrent un texte de Jean-Loup Dabadie sur la mélodie de Philippe Sard. Très ému d'ailleurs quand on lui parle de cette séance avec son ami Piccoli.
C'est un truc qu'on n'oublie pas ça. On était en studio et il a lu le texte très bien et on a fait deux ou trois prises je pense. C'était très très simple, vous voyez. Peut-être parce qu'elle touche directement l'âme, l'émotion, naturellement. J'en suis fier d'en faire partie, mais aujourd'hui elle prend une signification différente. Quoi. Ben, ça rappelle Michel, ça rappelle Romy, ça rappelle Claude, ça rappelle tous ces gens-là quoi, qui ont disparu.
Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
Je ne sais pas comment on pourrait dire, je suis très honoré en fait. Très honoré à chaque fois que je sais qu'il y a un film de Michel et que je sais qu'il y a une musique derrière où s'alignent les notes, vous voyez le visage de la personne. Comment ne pas voir Michel Piccoli ?
Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des sons abaissés jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde.
La folie de Michel. On a perdu un vrai acteur fou. Mais fou dans tout ce que ça a de merveilleux, quoi. Ça a été un extraordinaire ami.
Qu'est-ce que tu fais?
Je te regarde.
Les choses de la vie, Vincent, François, Paul et les autres, Max et les ferrailleurs, etc., etc. Les musiques de Philippe Sard avec Michel Piccoli, c'était Périscope, c'était très beau. Merci Jean-Philippe Ballas.
À demain.
À demain, bien sûr. 7h51.
Sur Europe 1, l'opinion de Nicolas Bétou.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
À chaque jour son franco-allemand. Dimanche, c'était la commémoration de la bataille menée et perdue par De Gaulle en 1940 contre l'ennemi allemand. Et hier, surprise, une conférence commune, Macron-Merkel.
Oui, une vraie surprise en effet, puisqu'on pensait qu'une forte tension s'était installée entre la France et l'Allemagne depuis 2 mois autour de la gestion des suites de la crise du coronavirus. L'Allemagne, par exemple, avait massivement débloqué des aides à ses entreprises grâce, à son insolente santé budgétaire, ce qui risquait de créer une distorsion très inquiétante pour l'avenir en faveur de son industrie. La France, de son côté, avait ressorti son rêve de mutualisation des dettes en espérant que les pays bien portants, suivez mon regard, accepteraient de s'endetter pour les pays mal gérés. Une forme de socialisme de la dette, quoi.
Ce que l'Allemagne avait toujours refusé et qu'Angela Merkel a fini par accepter.
En fait, l'accord entre elle et Emmanuel Macron est un peu différent. Il porte non pas sur des dettes passées, celles qui ont été accumulées par des pays laxistes, là encore, suivez mon regard, mais sur des dettes futures, celles qui vont pouvoir être constituées par l'Europe spécifiquement pour lutter contre les effets de cette crise du coronavirus, dont personne, bon ou mauvais gestionnaire, n'est évidemment responsable. Voilà, pour la première fois de son histoire, l'Europe franchit ce pas symbolique, lever de l'argent au nom de tous pour aider quelques-uns. C'est vraiment un moment très important et aussi très symbolique.
Et cette tension entre les deux pays disparue ?
Alors en fait, Emmanuel Macron a souligné hier que c'est cette tension justement qui a permis de pousser le dialogue au-delà de l'ordinaire. Une tension féconde, a-t-il confié en petit comité. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État a réussi un joli coup. D'abord, c'est lui qui, incontestablement, est à la manœuvre pour la relance du fameux moteur franco-allemand. Et on sait à quel point cette dimension européenne est importante dans son positionnement politique. En plus, pourquoi se priver ? Il faisait remarquer hier que si Angela Merkel acceptait d'endosser ce projet d'endettement qu'elle avait toujours refusé jusque-là, si elle acceptait de le défendre auprès de son opinion publique réticente, c'était bien parce que la France avait retrouvé le chemin de la réforme, de la compétitivité, bref, qu'elle avait retrouvé une partie de sa crédibilité.
Un argument à usage politique interne, je suppose.
Bien sûr, oui. Alors on en est encore dans l'attente de ce que sera le projet politique d'Emmanuel Macron pour la sortie de crise, mais on voit déjà ce qu'est sa dimension européenne, et elle sera assez largement applaudie. Et dans la construction de son positionnement pour le jour d'après, comme on dit, passer par la case Europe est certainement une manœuvre politique d'une grande habileté.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant 8h. Très bon réveil.
Europe 1, vous restez avec nous juste avant 8h, nous serons rejoints par Mathieu Noël.
Et après Laurent Cabrol, la météo, le journal de 8h, François Geffrier, vous restez bien, vous êtes bien sur Europe 1, à tout de suite.